9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Imam Abdelali Mamoun est avec vous tous les jeudis. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Bonjour Imam Abdelali.
Bonjour Philippe, salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'en profite pour saluer Kim, mon frère.
Salam alaikum. Un gros bisou à Kim. On fait la bise. Salam alaikum et bonne émission. Salam.
Merci.
Voilà, 4 bises normales, ça fait plaisir. Ouais,
alors ça c'est surtout à l'occasion du Maulid Nabawi.
Ah, j'en ai compté 5 là, moi là.
Ouais, mais c'est pas grave. Un de plus, c'est toujours pas assez.
Il y a eu 4 bises et un bisou de voilà. comme regarde, voilà, ça c'est plus que 4 bises, ça c'est la famille.
Alors, attendez, c'est pas filmé, il faut qu'on filme.
Ouais, non, mais simplement c'est moi qui manifeste ma déclaration d'amour fraternel à mon frère Kim.
Bien, on va parler de fête aujourd'hui, Imam Abdelali. Alors, on appelle ça le Maulid Anabawi ou parfois le Maulid Nabawi Sharif. Qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Les traductions.
Al Maulid Anabawi Sharif, c'est la naissance prophétique honorable, c'est-à-dire.
C'est ça. La traduction, c'est ça que ça veut dire.
Voilà. D'accord. Sharif, ce qui veut dire noble.
Bien. Alors pourquoi est-ce que Dieu, Imam Abdelali, a envoyé Mohamed, un analphabète, un berger, puis un commerçant d'Arabie au lieu d'un notable romain ou perse?
Ça ressemble à une question qui fâche, ça, Philippe. Oui, en effet, effectivement, ça fâche, c'est vrai. On pourrait se dire, mais pourquoi pas un intellectuel, un érudit,
bon, romain, je vois pas.
Ouais, un romain, par exemple, pourquoi pas, puisque c'était à l'époque. L'une des régions au monde les plus civilisées, et donc pourquoi de cette contrée arriérée, archaïque et surtout très désertique et très désintéressée du monde à l'époque, puisque les deux grandes puissances qui géraient le monde à l'époque étaient l'Empire perse et l'Empire romain. Qu'est-ce qui a fait qu'Allah a choisi ce pays-là, ce territoire qui est le Hijaz, la Mecque en particulier, près de la Kaaba, de ce sanctuaire abrahamique, donc construit par notre prophète et notre patriarche des prophètes, Sayyidina Ibrahim, alayhi salam. Pourquoi à cet endroit-là, précisément, que Dieu a choisi pour envoyer un homme très ordinaire, très banal, pour, en apparence bien sûr, pour devenir le prophète de l'humanité? Eh bien, d'abord, il faut savoir que, en effet, cet endroit-là est isolé, et c'est très bien, c'est tant mieux. Quand on voit que, à travers l'histoire, les autres prophètes ont subi les pressions politiques, les pressions, on va dire, des conflits liés aux conflits militaires, aux conflits armés, dans lesquels se trouvaient ces prophètes, notamment les prophètes des peuples d'Israël, qui étaient d'abord dans la région de la Palestine. Eh bien, on comprend pourquoi Dieu a choisi d'envoyer son prophète à un autre endroit, parce que c'était exactement la ligne de conflit qui séparait les deux empires perses et romains. C'était l'endroit même où il y avait constamment la guerre. Et comment veux-tu sereinement transmettre un message de paix au milieu de la guerre, au milieu on va dire, c'est comme si qu'on parlait de l'Empire américain et l'Empire russe contemporain, où il y avait des tensions de haine d'une intensité incommensurable. Donc ça se comprend pourquoi il fallait isoler. Pour avoir un message de paix et construire ce noyau nécessaire pour répandre la paix, il fallait qu'il ne soit plus dans cet endroit historique qui était la Palestine, où Allah Azza wa Jal avait choisi et choisissait tout le temps d'envoyer ses prophètes, eh bien il décide là au contraire de l'envoyer à la Mecque.
Donc là, ça c'est pour le lieu, mais là, ma question, Imam Abdelali, c'est sur la personne. Pourquoi est-ce qu'il a choisi un berger?
Alors, berger, faut savoir qu'il a effectivement, dans sa jeunesse, effectivement, il a joué ce rôle, mais parce qu'un berger, c'est quelqu'un d'abord qui vit dans la nature, qui vit au milieu de la création. C'est quelqu'un qui prend le temps de contempler la création d'Allah Azza wa Jal. C'est quelqu'un qui est serein dans sa tête. C'est quelqu'un d'immaculé, qui n'est pas pollué par l'environnement de la vie civile et de la société civile. Il est un petit peu il prend le temps de véritablement garder sa nature innée pure, qui consiste à faire en sorte de forger un homme qui grâce à cela et qui n'est pas influencé par son environnement, La preuve, c'est que Dieu décide même de faire partir son père et de le faire mourir avant sa naissance pour qu'il n'ait aucune influence sur son fils. Le prophète dit lui-même « Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi ». C'est Dieu lui-même qui a pris en charge mon éducation. Donc Dieu décide de préparer, de forger l'identité appropriée de son prophète qui va répandre donc la paix et l'amour et la fraternité et la soumission à Dieu à travers le monde dans cet endroit isolé, nécessairement isolé, pour mieux le préparer et mieux construire son noyau. Mais il y a un rôle aussi qui est important dans cet endroit, c'est le rôle de la Kaaba. Et ça n'est pas pour rien que la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aura lieu l'année de l'éléphant. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'année de l'éléphant? En arabe on dit « Am el-fil ». C'est l'année même où le prophète est né. Il y a eu un événement extraordinaire qui est que Abraha al-Habashi, le roi du Yémen, qui s'était autoproclamé roi du Yémen, mais qui était à l'origine un chef de guerre de l'Éthiopie, du roi d'Éthiopie, qui avait envahi le Yémen, et qui, cet homme-là, a créé une scission, c'est-à-dire qu'il s'est séparé de son roi, et pour cela, il a dû faire même un duel. Il a eu un duel avec un autre général de l'armée du roi d'Éthiopie, et lors de la bataille, il a été balafré ce Abraha, mais il a quand même réussi à vaincre son adversaire et à le tuer. Et c'est pour cela que son surnom c'est Abraha al-Ashram. Al-Ashram, ça veut dire celui qui est balafré, il a le visage balafré. Et cet homme-là, qui était chrétien, décide de demander aux Arabes, puisqu'il est en péninsule arabique, de se concentrer dans l'adoration de Dieu et de ne pas croire aux idoles. Et il voit que le sanctuaire de la Mecque est entouré de centaines d'idoles, et il décide de construire lui-même un sanctuaire dans lequel il inviterait les hommes à venir croire en Dieu, mais selon la foi chrétienne. Mais Dieu en voulait autrement. Dieu a décidé autrement, que ce sanctuaire-là abrahamique, qui avait été à l'origine construit comme un sanctuaire pour adorer un Dieu unique, ne pouvait pas faire l'objet d'une destruction et d'un remplacement par un autre temple, lui choisi par un homme, et notamment un tyran, puisque il est à l'époque un général tyran qui s'autoproclame roi du Yémen. Donc cet homme-là, eh bien, construit son église, son temple, et un arabe qui passait par là, un arabe de la Mecque, décide d'éjecter, de faire ses besoins à l'intérieur, donc de porter atteinte au caractère sanctifié et au caractère sacré de son temple à lui. Donc il est énervé, il décide, bon, bah, puisqu'il en est ainsi, moi, votre Kaaba, je vais la détruire. Vous avez souillé mon église, je vais vous détruire la vôtre. Et donc il envoie une armée, et cette armée-là arrivée devant la Mecque, avec un éléphant, bien sûr, c'est ça l'objet pourquoi on l'appelle l'année de l'éléphant, eh bien cet éléphant s'assoit et ne veut plus avancer vers la Kaaba. Dieu lui ordonne de ne pas continuer son chemin. Et malgré tout, Abraha, qui lui n'écoute rien, fouette son éléphant, il demande aux soldats de le forcer à avancer, mais rien n'y fait, il ne veut pas avancer, et suite à cela, des oiseaux porteurs de cailloux de l'enfer et des cailloux de feu bombardent cette armée venue détruire la Kaaba et sont totalement anéantis, et c'est pour cela que Dieu le reprend cette histoire dans une sourate qui va porter son nom, la sourate Al-Fil, la sourate l'éléphant. C'est donc dans cette histoire-là où Dieu relate. Alors pourquoi cette histoire? Et tout le monde a vu, c'est ça qui est étonnant, c'est que tous les Arabes ont vu cet événement. Ils ont vu les oiseaux, ils ont vu les cailloux de l'enfer tomber sur cette armée et anéantir cette armée et la détruire. Et donc ils ont compris quoi? Ils ont compris que la Kaaba avait un statut extrêmement sacré aux yeux d'Allah et que personne ne pouvait profaner ce lieu-là. Et c'est là où est-ce que la situation va être intéressante, c'est que le prophète Mohammed sallam est issu de la grande tribu mécoise qui a pour charge de garder et d'être les garants de cette Kaaba, de cette maison d'Allah qui avait été protégée dès sa naissance de ce tyran qui était Abraha et de son éléphant qui était venu détruire la Kaaba. Donc, à partir de là, les Arabes disent que celui qui détiendra cette Kaaba-là, eh bien, ça veut dire qu'il aura le soutien de Dieu, forcément. Donc, dans un premier temps, lui, le prophète, se focalise sur les Mécois, alors qu'il pourrait aller chercher de l'aide ailleurs. Mais non, il dit non, je sais que si j'arrive à convaincre les Mécois, Et les Quraysh, donc les fameux Quraysh, comme on dit en arabe, sont ces habitants, cette grande tribu mécoise, eh bien, tous les tribus arabes, puisqu'on l'appelait à l'époque Ummul Qura, la capitale des villes, des villages de l'Arabie, eh bien, ils vont se convertir parce que c'est un lieu de pèlerinage où tous les Arabes, même en tant que polythéistes, célébraient le pèlerinage avant même l'avènement de l'islam. Et donc, le prophète se focalise, mais il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas, alors il envoie ses compagnons en Éthiopie à deux reprises. Ensuite, lui-même et ses compagnons émigrent à Médine, comme on sait, comme on connaît tous l'histoire de la Hijra. Et là-bas, il va se réorganiser, il va construire son état et sa nation musulmane, sa population et sa communauté musulmane, qu'il va revenir à la Mecque 8 ans plus tard, en conquérant. Bien sûr, il est armé, mais il est pacifiste, puisque aucun sang ne sera écoulé. Il va utiliser la force dissuasive. Il va utiliser l'état de surprise pour pouvoir envahir la Mecque. Mais ce qui est important, c'est que les Arabes seront là particulièrement observateurs. Ils seront observateurs, Philippe, parce que ils diront, mais le prophète qui vient avec une armée de 10 000 hommes n'est-il pas comparable à Abraha? Ce Abraha qui a été anéanti par Dieu parce qu'il a voulu profaner et détruire la Kaaba. Et lui, le prophète, si c'est un charlatan, si c'est un imposteur, si c'est un menteur, eh bien Dieu va lui faire subir le même sort que Abraha. Il va envoyer des oiseaux pour le tuer et tuer toute son armée. Mais rien ne se fera comme cela, puisque effectivement le prophète rentrera à la Mecque, envahira la Mecque, conquérera la Mecque, et il donnera la possibilité, par sa grande miséricorde, d'être pardonneur, d'être généreux, et de laisser les gens eux-mêmes choisir la foi qu'ils auront choisi de suivre. Sans contraindre personne. Mais c'est grâce à cette Kaaba-là, que les Mécois vont réussir à se unifier autour du message du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, et ainsi de répandre cette religion à travers le monde. Donc le choix de la Mecque n'est pas anodin. Le choix de la Mecque est très important, car c'est grâce à cela que toutes les tribus arabes vont se réunir autour du prophète Mohammed, alayhi salam, en tant que personnage qui a eu le soutien de Dieu, puisqu'il a réussi à envahir la Mecque sans être, on va dire, faire l'objet d'une attaque, d'une condamnation divine, et l'envoi de d'oiseaux qui le détruiraient. Donc ce n'est pas rien que de choisir cette Kaaba-là, cette ville qui est Mecca, pour que l'islam démarre et puisse se propager à travers le monde, et surtout la position géographique. Hein, nous sommes entre les trois continents. Vous avez à l'est l'Asie, hein, vous avez le sud-ouest, c'est l'Afrique, hein, c'est tout le continent africain, et tout le nord-ouest, c'est l'Europe, c'est l'Occident, c'est le monde romain, byzantin, etc. Donc le prophète est bien exactement géographiquement situé au bon endroit. Il a autour de lui des héritiers de l'arianisme, c'est-à-dire des croyants en un Dieu unique qui avait compris le vrai message de Jésus, que Dieu est un Dieu unique, qui n'a ni père ni fils et n'a ni engendré ni a été engendré. Ce sont des arianistes qui, eux, sont les premiers à se convertir à l'islam dès qu'ils entendent le message du prophète Mohammed sallam. Hein, déjà, autour de lui, Waraqat ibn Nawfal et d'autres hommes qui étaient ce qu'on appelle dans la religion de la Hanifiya. La Hanifiya, c'est-à-dire la foi ancestrale qu'avait légué notre patriarche Ibrahim alayhi salam à tous ses compagnons, à tous ses successeurs. Et c'est grâce à cette situation prédisposée à recevoir le message que le prophète va réussir à convertir. S'il avait été envoyé au milieu d'une communauté chrétienne, par exemple polynienne, qui est déjà imprégné de la conviction polynienne, n'aurait pas réussi à faire passer le message. Mais il est déjà là près de gens qui sont déjà prédisposés, qui ont déjà la hanifiya. Bu'istu bil hanifiyati samha. Et donc, il est là autour d'hommes qui croient déjà en un Dieu unique, mais qui dit, bon, on va faire adorer et aduler des idoles aussi pour nous rapprocher de Dieu. Hein, quand on interrogera, le prophète va interroger ces idolâtres, il va leur dire, mais pourquoi adorez-vous ces statues si c'est le Dieu du ciel qui vous accorde tous ses bienfaits et non ces idoles? Ils répondront, قَالُوا مَا نَعْبُدُهَا إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Nous ne les adorons que pour qu'ils nous rapprochent de Dieu.
à votre spiritualité. Imam Abdelali, spécial Maolid Annabawi, aujourd'hui jusqu'à 10h. Je rappelle que tout à l'heure, vous pourrez bien sûr intervenir et poser vos questions à l'imam Abdelali au standard de Beurre FM 01 53 48 3000. 01 53 48 3000.
À votre service, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Imam Abdelali, aujourd'hui c'est un spécial Maolid Annabawi. On en parle, vous étiez en train de raconter cette histoire de l'année de l'éléphant. Moi je ne connaissais pas l'année de l'éléphant, hein. Pourquoi on a appelé ça l'année de l'éléphant. Ce qu'on sait aussi de la naissance du prophète de l'islam, c'est que c'est probablement un lundi.
Tout à fait, le prophète lui-même le reconnaît, il dit que je choisis de jeûner le lundi. Une des raisons pourquoi je jeûne souvent le lundi, c'est parce que c'est le jour où je suis né. Donc il est normal que je remercie Dieu tous les lundis de m'avoir donné la vie ce jour-là. Et donc c'est sa manière à lui, le prophète, déjà de célébrer sa naissance. Donc ceux qui disent que le Maoulid c'est une innovation, je leur dis écoutez, non, on ne peut pas parler d'innovation. Quand on parle pas de rituel, moi ceux qui inventent un rituel le jour du Maoulid, je leur dis stop. Non, ça c'est de l'innovation. Il faut pas célébrer de rituel. Il n'y a pas de prière particulière qu'on appellerait la prière du Maoulid ou bien des invocations spécifiques au jour du Maoulid, etc.
Et ça n'a pas le statut d'Aïd non plus.
Non plus, ce n'est pas un Aïd, c'est un ihtifal bidhikra, c'est une commémoration.
Oui.
On célèbre la commémoration du prophète, de la naissance, mais aussi de sa mort. Puisqu'il est mort le même jour, et il a même immigré pendant la même période du Rabi al-Awwal. Hein, il y a eu cette immigration de la Mecque vers Médine, qui a eu lieu elle aussi pendant le mois de Rabi al-Awwal, puisqu'il est parti le 4 Dhul Rabi al-Awwal, il est arrivé à Médine le 18 Rabi al-Awwal, donc pendant la même période. Où est-ce qu'il est né? Où est-ce qu'il mourra plus tard?
Alors, qu'est-ce qu'on sait de ses parents? Vous avez évoqué son père tout à l'heure.
Alors, Abdullah ibn Abd al-Muttalib. Alors, tu sais, Philippe, j'ai un truc que j'aime bien faire, c'est quoi? Vas-y, dis. T'as deviné déjà? Vas-y, dis. Je non, pensais que t'avais deviné.
Non, non, je suis candide.
Alors, c'est de relater toute sa chaîne généalogique.
Ça me rappelle quelqu'un.
Alors,
ça.
Le prophète, ouais. il a 20 grands-pères qui sont connus. 20 grands-pères, arrière-grands-pères, arrière, etc. 20 qui sont connus et que lui-même reconnaît jusqu'au dernier qui s'appelle Adnan. Mais entre Adnan et Ismaïl ibn Ibrahim, on a une période inconnue. On ne sait pas relier Adnan à Ismaïl. Lui-même dit dans un hadith « Kadhab an-nasabuna ba'da Adnan ». Et donc, il y a un certain nombre de grands-pères qu'il y a entre Adnan et Ismaïl ibn Ibrahim, puisqu'il est l'héritier, le descendant de Ismaïl ibn Ibrahim. Donc, le prophète Ismaïl, fils de Ibrahim, alayhi as-salam. Donc, d'une certaine manière, le prophète est descendant d'Abraham. D'accord ? Alors son nom c'est Mohammed ibn Abdillah, ibn Abdil Muttalib, ibn Hashim, ibn Abdi Manaf, ibn Qusay, ibn Kilab, ibn Murra, ibn Ka'b, ibn Lu'ay, ibn Ghalib, ibn Fihr, ibn Malik, ibn Nadr, ibn Kinana, ibn Khuzayma, ibn Mudrika, ibn Ilyas, ibn Mudar, ibn Nizar, ibn Ma'addi, ibn Adnan. Voilà Adnan, et il nasabuhu ila Ismaïl ibn Ibrahim alayhi as-salam. Voilà l'histoire de l'arbre généalogique du prophète. Donc son père c'est Abdullah, fils de Abdul Muttalib, donc un Hashimite puisqu'il est le fils de Abd Manaf, ibn Hashim ibn Abd Manaf. Donc ces Hashimites étaient les garants, les gardiens de du sanctuaire de la Mecque. C'était les plus grands notables, l'un des plus grands notables de la Mecque. C'était eux qui géraient le côté religieux de la Mecque. Alors que les Bani Umayya, par exemple, eux, c'était le côté plutôt politique, ambassade, etc., négociations, militaires. Donc, chaque tribu avait un rôle, d'une certaine manière, à la Mecque.
Alors, qu'est-ce qu'on sait de sa mère?
Alors, sa mère s'appelle Amina bint Wahb, min Bani Zohra. Il fait partie de la tribu, donc sa mère fait partie de la tribu des Bani Zohra, mais qui elle-même est descendante de celle du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc elle-même c'est une Qurashite 100%, elle est choisie par le grand-père du prophète Mohammed Abdul Muttalib, qui choisit pour son fils, son dernier fils Abdullah. Alors je précise quand même, Abdullah, c'est important de connaître ce personnage parce qu'il fait partie des deux égorgés, c'est-à-dire des deux personnes qui auraient dû être sacrifiées. Et donc, s'il n'était pas né, ou s'il avait été égorgé, s'il avait été sacrifié, le prophète ne serait pas né. Mais Dieu en a voulu autrement. Son ancêtre, Ismaïl, devait être donc égorgé sur l'Aqaba, donc contre quand son père lui dit j'ai vu dans le rêve que je t'égorgeais, il en parlant à son fils Ismaïl, et Dieu donc va offrir à Ibrahim une offrande qui va remplacer le sacrifice de Ismaïl, mais aussi Abdullah, puisque son père Abdul Muttalib avait fait une promesse à Dieu que si Dieu lui offrait et lui faisait don de 10 enfants, de 10 garçons, il égorgerait le dernier. Et effectivement, Dieu va lui faire don de ses 10 enfants. Mais Abdullah, quand il naît, il n'arrive pas, son père, Abdul Muttalib, à l'égorger et à le sacrifier. Donc, il va demander à des personnages, on appelle des sages de la ville, que peut-il faire pour compenser. Mais l'on dit, eh ben, tu vas tirer au sort entre ton fils et 10 chameaux. Si ça tombe sur ton fils, tu devras égorger ton fils. Si ça tombe sur les 10 chameaux, tu égorgeras 10 chameaux à la place de ton fils. Et donc, effectivement, il tire au sort. Et au moment où il tire au sort, malheureusement, ça tombe sur son fils. Donc, il est obligé d'égorger son fils au lieu des 10 chameaux. Alors, il repart voir, il dit, mais je peux pas égorger mon fils pour comme ça. Il dit, bah, tu refais encore la même chose. Et ainsi de suite. Il vient à chaque fois tirer au sort et à chaque fois, ça va tomber sur son fils. Jusqu'à la 11e fois. C'est-à-dire que pendant 10 fois de suite, ça va tomber sur son fils. Et donc, bien sûr, les chameaux restent redevables. Donc finalement, 10 plus 10 plus 10, 10 fois 10, ça fait 100 chameaux qu'il va se sentir obligé d'égorger pour ne pas sacrifier son fils, Abdullah. Et donc, on l'appelle le prophète Ibn al-Dhabihain. Donc, il est le fils des 2 sacrifiés qui auraient dû être sacrifiés, mais qui ont été obligés d'être remplacés, le premier Ismaïl, par un kepsh, par un bélier offert par Dieu, wa fadaynahu bi dhibhin azim, comme Dieu le dit dans le Coran, et Abdul Muttalib, qui a dû, pour ne pas égorger son fils, être obligé d'égorger 100 chameaux. Donc c'est son père, Abdullah ibn Abdul Muttalib, qui va mourir avant sa naissance. Donc le prophète ne va jamais connaître son père. Puisque quelques mois ou 2 mois à peu près avant sa naissance, Abdullah, qui part au Cham et en revenant à Médine, eh bien, tombe malade et meurt à Médine.
Alors, sa mère, pourquoi est-ce qu'elle le confie à une nourrice?
Alors, sa mère, c'est Amina bint Wahb. Elle le confie à une nourrice 4 mois après sa naissance, attention, puisque le prophète va d'abord être allaité par sa propre mère, Amina bint Wahb, mais aussi par une nourrice qui s'appelle Thuwaiba al-Aslamiyya. Hein, qui est une esclave, une servante qui appartenait à Abu Lahab, puisque Abu Lahab à l'époque n'est pas encore l'ennemi de son neveu. Mm. Il est encore quelqu'un qui aime sa famille, qui contribue au bien-être de sa famille, il soutient sa famille. Donc, comme il est le frère de son père, il se sent redevable d'aider son frère qui est mort et qui a légué un enfant. Donc, en lui donnant au moins les moyens d'allaiter son fils. Donc, il va lui offrir Thuwaiba. Et en plus, Thuwaiba, c'est ça qui est impressionnant, c'est elle qui va annoncer la naissance de Mohammed à son oncle Abu Lahab. Et quand elle viendra lui dire, Ya Abu Lahab, laqad wulida Mohammed. Donc, ton neveu Mohammed est né. Et il était tellement joyeux, il était tellement exalté de joie d'entendre la naissance de son neveu qu'il a dit, Anti hur ali wajillah. Tu es libre, je t'affranchis en offrande, en cadeau, et rien que en hommage à ce bébé qui est né, eh bien, je te rends ta liberté. Mais ça ne va pas l'empêcher, cette femme-là, de rester habiter avec eux dans la famille des Banu Abdul Muttalib et d'allaiter pendant 4 mois ce bébé qui s'appelle Mohammed ibn Abdullah, le prophète de l'islam. Ensuite, bien sûr, comme il était de tradition, tous les bébés nouveau-nés, eh bien, étaient pris en charge par des nourrices venus des Bani Sa'd, puisque les Bani Sa'd étaient connus pour leur éloquence, pour leur maîtrise de la langue arabe pure. Ils avaient un arabe d'une pureté extraordinaire. Et donc, c'était souvent ces femmes-là qui récupéraient les bébés et les allaitaient pendant plusieurs années. En général, c'était 2 ans. Mais au bout de 2 ans, voyant autour d'elle la bénédiction que lui avait apporté le prophète et toutes ces dons que Dieu lui avait faits, eh bien, Allah Azza wa Jal, elle voudra garder encore une fois le prophète 2 autres années, et c'est ce qui se passera. Elle va garder finalement.
C'est pour ça qu'elle va le garder 4 ans, en fait.
4 ans, voilà, c'est ça.
Bien. Première chanson dans cette émission.
Ah oui, il faut donner un peu un côté le festif. Donc, moi, je voudrais que tout le monde soit joyeux, tout le monde sourit. En hommage à notre prophète bien-aimé Mohammed, alayhi salatu wassalam. Donc, cette chanson, elle nous est interprétée par Mesut Kurtis, un turc, mashallah, un magnifique artiste de chant religieux, qui nous dit tabassam, c'est-à-dire souris.
بتعقد ليه في تحزن وتتأثر لو كنت ناسي تذكر سيرتنا بينا وفكر اسمع كلامه تفاءل بشر ولا تنفر ويوحد الله في قلبك آجل في عسرك ينسر صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي وادعي من قلبك هيبعد الهم عنك قول ما انت مؤمن بربك هيكون عند حسن ظنك وقول يا رب انا عبدك
يا الله
راضي بقضاءك وعدلك
يا الله
اعملها بس وتوكل صلي على الله أملك وصلي
صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليه صلي على النبي وتبسم ده النبي تبسم وتبسم ده النبي تبسم اللهم صلي عليك
جبت اليأس منين قل لي إيمانك فين كله بأمر الله والعسر بين
Mesut Curtis sur Beurre FM, Imam Abdel Ali.
Tabassam, souris.
Qu'est-ce que veut dire la chanson, tiens?
Ben, ça veut dire souris.
Tout le temps.
En hommage au prophète, et prie sur lui, il dit salli ala, Allahumma salli alay. Et il fait des prières sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque comme on le sait, celui qui multiplie les prières sur le prophète bien-aimé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam obtiendra son intercession. Il intercédera en sa faveur le jour de la résurrection et lui permettra ainsi d'aller au paradis avec lui, Inch'Allah. Et c'est ce que nous souhaitons pour toutes et tous qui nous écoutent et bien sûr, toute l'équipe de Beurre FM.
Voilà, et tous ceux qui nous écoutent en voiture ou chez eux, vous pourrez
intervenir. Et toi aussi, Philippe, Inch'Allah, tu vas aller avec nous au paradis, Inch'Allah.
Bien.
C'est sûr, d'abord. De toute façon, mais j'ai même pas besoin de.
Vous m'emmenez. Vous...
Inch'Allah. Non, je t'emmène pas, c'est toi qui vas m'emmener.
Oui, alors on en reparle tout à l'heure. Je vais négocier ça avec vous, Imam Abdali. Vous intervenez tout à l'heure au 01-53-48-3000. On écoutera d'autres chansons. Spéciale Maolid El Nabawi sur Beurre FM jusqu'à 10h.
À votre service, reviens dans un instant. 9h-10h, à votre spiritualité, Philippe Robichon sur Beurre FM.
Émission spéciale Maolid El Nabawi avec l'imam Abdel Ali Mamoun. On parle, imam Abdel Ali, de miracle au moment de la naissance. De quoi s'agit-il?
Ben effectivement, la naissance du prophète est un moment extraordinaire qui est donc un don, comme on l'a dit tout à l'heure, offert par Allah Azza wa Jal comme une miséricorde pour les mondes. Donc ça ne peut pas passer comme un événement ordinaire. Donc il va se passer des choses extraordinaires ce jour-là. ce jour-là, par exemple, le jour où le prophète va naître, Amina elle-même raconte que sa pièce s'est devenue totalement illuminée et qu'elle a vu des ombres de femmes qui étaient autour d'elle et on lui dit, mais elle te pose la question, mais qui êtes-vous? Chacune va se présenter, alors Maryam ibnat Imran, Maryam, donc la mère de Jésus, Asiyat Zawj Firaun, Asiyat, cette fameuse femme qui être une des quatre grandes femmes de donc elle va être entourée de femmes honorables autour d'elle qui vont aider la sage-femme à donner naissance au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Je rappelle la sage-femme qui s'appelait Shifa bint Auf, qui est la mère de Abdurrahman ibn Auf, pour indication, donc, qui va devenir lui-même l'un des grands compagnons, l'un des 10 grands compagnons dont le prophète va annoncer le paradis. Donc, elle-même va être convertie à l'islam, Shifa bint Abdil, bint Auf, que le prophète va honorer tout au long de sa vie, il va même lui verser une pension, il va lui, à chaque fois, même sa femme Khadija va lui faire des dons à chaque fois qu'elle aura l'occasion de le faire. Donc cette femme-là va elle aussi être témoin de ces événements, notamment que déjà, une mère qui normalement accouche doit souffrir le martyre. Eh bien, pas un gramme de souffrance pour Amina bint Wahab. Elle va donner naissance à son enfant, normal, c'est-à-dire, il va même tomber tellement, elle va même pas sentir qu'il est sorti d'elle. Et c'est bien sûr Shifa bint Auf qui va prendre l'enfant et elle va constater qu'il est déjà circoncis. Qui au lieu de pleurer, il sourit et il rit, c'est-à-dire qu'il est c'est un enfant qui est en train de rire à sa naissance. C'est un enfant totalement déjà lavé, elle n'est même pas souillée par les traces de la naissance. Et une lumière au moment même dit Amina va jaillir de son corps pour illuminer toute la pièce et des hommes et des femmes qui sont à l'extérieur de la Mecque vont voir une boule de lumière et se répandre et illuminer entre le Cham et jusqu'au Yémen. C'est-à-dire que le Cham et le Yémen et entre les deux, toute la péninsule arabique en gros va être recouverte d'une lumière resplendissante comme le témoignent beaucoup d'Arabes qui se promenaient et constataient cette particularité. Un feu d'artifice nous témoigne des Arabes d'étoiles qui, comme si qu'on avait l'impression qu'elles tombaient du ciel, vont couvrir le ciel et illuminer le ciel. C'est un moment extraordinaire, ce moment de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et aussi Kisra, c'est-à-dire l'empereur, comment on dit en français, Kisra, Kézorès ou Kérosès ou Kérosès, un truc comme ça. Donc, qui en français est le nom de Kisra, le roi des Perses, va tomber de son trône et le trône va se casser. Son trône va se fendre et il va se casser. Autre chose, les murailles de son palais vont s'effriter et certains même de ses piliers vont s'effondrer. Donc on raconte que énormément de choses, en tout cas, de signes précurseurs, de signes annonciateurs de l'avènement de ce grand messager qui était Mohammed alayhi salat wa salam, eh bien, auront lieu le jour de sa naissance, même si bien sûr les avis sur l'authenticité sont assez discutables. Et voilà, donc à partir de là, nous pouvons effectivement confirmer que dans l'ensemble des hadiths, un certain nombre de signes précurseurs et miraculeux vont avoir lieu ce jour-là.
Une nouvelle chanson que vous nous proposez, Imam Abdelali, ce matin.
Alors, c'est une chanson dont l'auteur est Maher Zain, mais qui ne sera pas chantée par Maher Zain, mais par des filles indonésiennes, Siti Hawa notamment.
chantent bien les Indonésiennes, hein, Imam Abdelali Mamoun.
C'est magnifique. Elles ont une voix extraordinaire. Et puis, c'est des prières sur le prophète. Assalamu alayka ya Rasulallah. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sallu ala Rasulillah. J'espère que, en ce moment, rendons hommage au moins une fois en faisant une prière sur notre prophète bien-aimé Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, que Dieu recouvre notre cœur de son amour. Amin.
Il y a beaucoup de traditions autour de cette fête, hein, du Maulid Nabawi et Imam Abdelali, beaucoup de pétards. Alors aujourd'hui, quel regard vous portez sur la façon dont ça se fête dans le monde entier?
Alors il y a des dérives, il y a des...
Mais entre, entre ceux qui décrètent que c'est une fête interdite, de toute façon,
et il y a tous ceux qui ne
ceux qui lancent des pétards et qui mettent des bougies.
Il y a les deux extrêmes qu'il faut effectivement éviter, c'est de ne donner aucune considération. Ça, c'est une extrême pour moi qui n'est pas tolérable, de considérer que cet événement-là n'a aucune ne doit pas être pris en considération. Moi, j'estime qu'au contraire, célébrer la naissance du prophète, c'est en même temps fructifier, cultiver l'amour du prophète dans le cœur de nos enfants. Moi-même, par exemple, à Alfortville, j'ai organisé une grande fête avant-hier, donc le jour même de du Maulid Nabawi. Donc nous étions mardi 20 novembre, c'était la journée de la naissance du prophète bien-aimé Mohammed al-Sallam, dans une péniche, hein, sur l'eau, à même dans l'eau. Hein, on a reçu plus d'entre 250 et 300 personnes qui sont venues à cette fête, sans compter les enfants. On a fait donc une exposition sur la vie du prophète, on a fait une présentation d'une immense maquette sur la vie du prophète. On a présenté des chants religieux chantés par des enfants, des lectures du Coran, on a distribué des bonbons, des cadeaux, des gâteaux, c'était extraordinaire, une ambiance magnifique. On a écouté des chants religieux et plein d'autres choses qui ont suscité et cultivé l'amour de Dieu, l'amour de son prophète bien-aimé Mohammed dans le cœur de tous nos co-religionnaires, mais aussi de leurs enfants. C'est ça qui est très important. C'est comment transmettre cet amour à nos enfants. C'est fondamental. Aujourd'hui, à Noël, on fait mille et une choses, et s'il y a personne qui dit rien, bid'a, mais quand il s'agit du Maulid Nabawi, Allah, tout le monde saute en l'air, bid'a, bid'a. Subhanallah, on est dans une société où on a besoin de préserver notre identité, notre culture, notre héritage. Et le Maulid est un moment, est une occasion, une opportunité pour susciter cet amour et cultiver cet amour dans le cœur de nos enfants et de leur permettre de reprendre ce flambeau qui est le message de notre prophète bien-aimé Mohammed, alayhi salatu wassalam.
Allez, une dernière chanson, Imam Abdelali, ce matin. Alors non, je sais pas.
Bon, un petit peu de temps, je crois. Ouais. Oui. Oui.
C'est bien, ça se passe en direct.
Voilà, c'est celle-là. Bon. Alors, oui, on va en écouter, Inch'Allah, tout à l'heure.
On est dans la discothèque.
Alors, je rappelle que ceux qui ont envie, effectivement, avant d'arriver à cette chanson, Philippe, on va l'écouter, t'inquiète, hein, ça va se faire. Je voulais parler de mon voyage. On va aller visiter les reliques du prophète à Istanbul.
Vous voulez faire votre pub, là, c'est ça.
Ah, écoute, il faut.
Est-ce que vous voulez que je mette un petit jingle publicité?
Non. C'est pas une publicité commerciale, c'est une publicité éducative et culturelle. Moi, je propose un voyage. Venez avec moi, participez à ce voyage. Vous allez découvrir les reliques du prophète à Istanbul, où il y a une immense histoire de notre prophète qui est dans ce palais, dans le palais de Topkapi, où les Ottomans ont récupéré toutes les reliques du prophète. Je voudrais quand même citer un truc extraordinaire que je constate chez nos frères turcs, et l'immense respect qu'ils ont pour le prophète. C'est que dans ce palais, Philippe, dans ce palais, même quand il est fermé, même dans ce musée, quand il est fermé, il y a 40 récitateurs du Coran qui se relaient 24 heures sur 24 pour lire le Coran. C'est-à-dire qu'il y a en live, pas une cassette ou un CD ou une qui lit le Coran. C'est un homme qui est dans un kiosque et dans lequel il y a un micro et il récite le Coran qui imprègne la pièce où sont entreposées les reliques du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci, Philippe, 24 heures sur 24. Voilà l'immense respect qu'ont nos frères turcs pour notre religion. Hein, Dieu lui-même le dit dans le Coran. Il dit à tous ces Arabes: Ya ayyuhal arab, in tatawallaw yastabdal qawman ghayrakum, thumma la yakunu amthalakum. Si vous vous écartez, vous vous détournez de ce message, de ce don, de ce prophète que je vous ai envoyé, Dieu vous remplacera par des hommes qui seront meilleurs que vous. Voilà aujourd'hui le constat, c'est que 80% de la communauté musulmane dans le monde n'est pas arabe, Philippe. Donc arrêtons de confondre arabe, langue arabe avec l'islam. L'islam aujourd'hui, c'est d'abord une religion universelle et mondiale qui est parlée dans des centaines de langues, et c'est une religion d'abord qui n'est pas arabe. Donc, elle est à l'origine, bien sûr, arabe. Le Coran est en arabe, certes, mais c'est une religion qui a été aujourd'hui propagée et qui est aujourd'hui protégée par nos frères. Al-Bukhari, qu'est-ce que vous croyez qu'il était, Philippe, l'auteur de cet ouvrage qui a recueilli les plus authentiques des hadiths? Al-Bukhari, qui est de Bukhara, d'Ouzbékistan. Nous avons aussi Muslim, Al-Naysaburi, etc. Voilà, en gros, ce que je voulais dire sur cette question. Et on écoute notre dernière chanson, Philippe.
Alors, on rappelle votre numéro de téléphone.
06 29 25 35 00. 06 29 25 35 00. Alors, pour la Ramadan du mois de février.
Voilà, de quelle chanson s'agit-il, Imam Abdelali?
C'est Khamaroun, une très belle chanson qui parle du prophète comme étant une lune qui illumine les prédicateurs.
And